Je vais vous raconter l'histoire de Pocahontas. Nous allons la lire ensemble dans votre livre. Vous saurez qu'il est temps de tourner la page chaque fois que vous entendrez cette musique. Dès que vous serez prêt, nous pourrons commencer. Le voyage débuta semblable à tous les autres. Le capitaine John Smith se tenait sur le pont d'un voilier, cinglant pour le Nouveau Monde. Une fois en haute mer, le navire faillit sombrer dans une tempête si terrible que Smith dut secourir l'un de ses matelots. Pourtant, jamais il ne pensa à rebrousser chemin. Le danger et l'aventure l'attendaient sur une terre inconnue. C'est la partie du voyage qu'il appréciait le plus. Mais, pour l'heure, il voguait vers un pays de lumière, où son équipage, les colons de la Virginia Company et le gouverneur John Radcliffe rêvaient de conquérir pour le roi, le royaume et l'or. Mais cette terre de lumière était déjà habitée par tout un peuple, parmi lequel vivait Pocahontas, la fille d'un grand chef indien. En compagnie de Meiko, le raton laveur, et Flit, l'oiseau-mouche, Pocahontas aimait courir dans la forêt et plonger dans la rivière du haut des rochers. Elle prenait aussi plaisir à se promener en canoë avec sa meilleure amie, Nakoma, à qui elle confiait tous ses secrets, même ce rêve étrange qu'elle faisait chaque nuit.
On doit pouvoir l'expliquer, mais j'ignore comment.
Tu devrais demander à ton père.
Pocahontas s'empressa de retourner au village, où elle trouva son père dans la grande maison commune et lui parla de son rêve.
Je crois qu'il signifie que quelque chose va m'arriver, une chose fantastique.
Le chef Powhatan sourit.
Oui, une chose fantastique est sur le point de se produire. Kokuom me demande de lui accorder ta main, ma fille.
Épouser Kokuom ?
Pocahontas ne pouvait s'imaginer mariée à ce brave, mais trop sérieux guerrier.
Mais père, je crois que mon rêve m'indique un tout autre chemin.
Pocahontas, tu es la fille unique du chef. Il est temps d'assumer ton rôle au sein de notre peuple.
Après avoir parlé à son père, Pocahontas se rendit à sa clairière préférée pour demander conseil à un arbre enchanté auquel elle avait donné le nom de Grand-mère Feuillage.
Mon père voudrait que j'épouse Kokuom. Mais il y a ce rêve, c'est toujours le même.
Et elle décrivit à Grand-mère Feuillage cette curieuse flèche qu'elle ne cessait de voir.
Oui, et cette flèche va de plus en plus vite. Elle tourne, et soudain, elle s'immobilise.
Après l'avoir écoutée, le vieil arbre lui dit.
Eh bien, il me semble que cette flèche qui tourne ne fait que t'indiquer le droit chemin. Tous les esprits du monde veillent sur toi. Ils vivent dans la terre, l'eau, le ciel, et si tu les écoutes, ils te guideront.
Tandis que Pocahontas tentait d'écouter les voix du vent, la même brise enflait les voiles du navire de John Smith et la tirait irrésistiblement vers la côte. Dans sa cabine, le gouverneur Radcliffe s'adressa à Smith avec un regard cruel.
Et pour les indigènes, je m'en remets à vous.
Veillez bien à ce que c'est moins que rien ne perturbe pas notre mission.
Oubliant de mentionner que découvrir l'or du Nouveau Monde représentait sa dernière chance de briller à la cour du roi. Smith releva la tête et répondit d'un ton assuré.
Eh bien, s'il ressemble aux sauvages que j'ai déjà combattus, je n'ai vraiment rien à craindre.
Mais déjà, les prétendus sauvages qui avaient aperçu le voilier se réunissaient autour de leur chef. Powhatan leva la main pour obtenir le silence.
Il faut en apprendre plus sur ces visiteurs. Kekata, que vois-tu ?
Le sorcier jeta une poignée de poudre dans le feu.
Ils rôdent sur la terre comme des loups affamés, dévorant tous ceux qui croisent leur route.
Kokuom voulait passer à l'attaque.
Nous détruirons ces intrus comme nous avons détruit les Massawamek.
Kokuom, nous savions alors qui nous devions combattre, mais ces pâles visiteurs nous sont étrangers. Allez à la rivière et observez-les. Espérons qu'ils n'ont pas l'intention de rester.
Mais les colons avaient bien l'intention de rester. Pendant qu'ils établissaient le camp, le gouverneur Radcliffe aboyait ses ordres.
Vous d'abord déchargez le bateau, vous construisez le fort. Et pour tous les autres, les pelles et les pioches, il est grand temps de creuser.
Tandis que les chercheurs d'or éventraient la terre, Smith partit à la recherche de ce peuple que les Anglais appelaient les Indiens. Du haut d'un arbre, au sommet d'une colline, il admirait le paysage. Quel décor magnifique. Vivre un tel moment, pensa-t-il. Voilà bien pourquoi je suis venu de si loin. Soudain, Smith prit conscience d'une ombre qui le suivait. Il se dissimula derrière une chute d'eau, et à l'instant où l'ombre passait, il surgit devant elle le fusil levé. C'était Pocahontas. Ils demeurèrent un instant interdits, puis Smith abaissa son arme, tandis que l'Indienne courait vers son canoë. Le capitaine la rattrapa et aimablement lui tendit la main.
« Ne crains rien, je ne te ferai aucun mal. »
Pocahontas plongea dans l'étrange regard bleu de l'inconnu, essayant de comprendre ses paroles. Comme la brise se levait, les enveloppant dans un tourbillon de feuilles, Pocahontas se souvint des conseils de grand-mère Feuillage. Elle écouta avec son cœur. Et il lui sembla que le vent murmurait « Vas-y, prends la main de cet homme. » Et elle le fit. Tout à coup, elle comprenait son langage. En se désignant, elle murmura
« Pocahontas. »
Le jeune homme lui répondit avec un sourire
« Moi, c'est John Smith. »
Et, tandis qu'ils marchaient, comparant leurs différentes coutumes, l'incorrigible Meiko vola une boussole dans la poche de Smith. John expliqua à Pocahontas qu'il venait de Londres. Un très grand village, plein de carrosses, de ponts et de très grandes maisons.
J'aimerais voir toutes ces choses.
Tu les verras. Nous allons les construire ici. Nous montrerons à ton peuple ce qu'on peut faire de ce territoire pour en tirer profit.
Pocahontas le regarda indigné.
Pour en tirer profit?
Oui. Nous ferons des routes, des maisons dignes de ce nom et...
Mais nos maisons nous conviennent.
C'est ce que tu crois. Seulement, tu ne connais pas encore les nôtres. Nous avons tellement de choses à vous apprendre. Nous faisons beaucoup pour les sauvages à travers le monde.
Des sauvages?
Alors Pocahontas lui dit ce qu'elle avait sur le cœur.
Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence. Je crois sans malveillance. Mais si dans ton langage, tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux sont remplis de nuages. De nuages. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi, l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison? Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour? Les pleurs du chat sauvage au petit jour? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Courons dans les forêts d'or et de lumière. Partageons-nous les fruits mûrs de la vie. La terre nous offre ses trésors, ses mystères. Le bonheur ici-bas n'a pas de prix. Je suis fille des torrents sur des rivières. La loutre et le héron sont mes amis. Et nous tournons tous ensemble au fil des jours. Dans un cercle, une ronde à l'infini. Là-haut, le sycomore dort, comme l'aigle royal, il trône impérial. Les créatures de la nature ont besoin d'air pur, et qu'importe la couleur de leur peau, nous chantons tous en cœur les chansons de l'amour. En rêvant de pouvoir peindre l'air du vent. Mais la terre n'est que poussière tant que l'homme ignore comment vivre.
Pendant ce temps, les colons fatigués perdaient le moral. Non seulement ils ne trouvaient pas d'or, mais pire, la nourriture commençait à manquer. C'est alors que Ratcliffe surprit les Indiens en train de les espionner.
Des sauvages, aux armes, c'est une embuscade!
Au feu des fusils, les Indiens surpris répondirent avec leurs arcs et leurs flèches. Au cours de la bataille, Ratcliffe blessa un guerrier à la jambe. Kokuom se précipita courageusement au secours de son camarade et le porta jusqu'au village. Soudain, dans la forêt, Pocahontas entendit résonner les tambours de guerre. Elle dit au revoir à Smith et courut vers son village. Là, elle apprit que l'un des siens avait été blessé et que les guerriers des villages environnants allaient venir les aider pour combattre les envahisseurs. Pocahontas était triste et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à John Smith. Le jour suivant, tandis que les hommes construisaient un mur autour du village, Pocahontas et Nakoma ramassaient du maïs dans un champ. Quand tout à coup, voyant Smith apparaître, Pocahontas plaça sa main sur la bouche de Nakoma.
Je t'en prie, ne lui dis rien.
Pocahontas, en entendant Kokuom l'appeler,
Pocahontas,
saisit la main de John.
Vite, suis-moi.
Et abandonnant Nakoma, elle le conduisit à la clairière. En l'écoutant parler, il comprit que Ratcliffe s'était trompé. Les Indiens ne possédaient pas d'or. Pocahontas le présenta à Grand-Mère Feuillage. Soudain, deux colons se mirent à crier.
Smith ! Smith !
Il regarda Pocahontas.
Ils ne doivent pas nous voir.
Vite, cachez-vous !
Grand-Mère Feuillage cligna des yeux, tandis que Smith et Pocahontas se dissimulaient derrière l'arbre. Quand les colons furent partis, Smith regarda Pocahontas.
Il vaudrait mieux que je parte avant que tout le campement ne débarque.
Puis ils promirent de se retrouver dans la soirée à la clairière. Smith s'éloigna et Pocahontas se tourna vers Grand-Mère Feuillage.
Je sais que je ne devrais pas le revoir. Et puis, quelque part en moi, une voix me dit que j'en ai le droit.
Peut-être est-ce ton rêve.
Mon rêve?
Grand-Mère Feuillage sourit. Lorsqu'elle eut quitté la clairière et regagné le village, Pocahontas vit que les guerriers étaient arrivés. Immédiatement, elle prit son père à part et le supplia de ne pas combattre les Anglais.
Parfois, nos chemins sont tracés d'avance.
On devrait au moins essayer de parler à ces hommes.
Ils ne veulent pas parler.
Mais si l'un d'entre eux acceptait, tu l'écouterais, n'est-ce pas? Tu me le jures? Tu me le jures?
Bien sûr que oui, mais c'est loin d'être aussi simple.
Il se détourna et disparut dans la grande maison commune où le conseil de guerre l'attendait. Tandis que Pocahontas tentait de raisonner son père, Smith, de retour au camp, essayait de convaincre Ratcliffe de ne pas affronter les Indiens.
Ce sont des êtres humains, ils sont comme nous. Ils connaissent cette terre, ils savent comment naviguer sur les fleuves. Et ils ont ça, ça se mange.
Et il montra l'épi de maïs que Pocahontas lui avait donné. Mais lorsqu'il dit à Ratcliffe qu'il n'y avait pas d'or dans cette région, celui-ci explosa.
Mensonge ! Mensonge et honte ! C'est ma terre ! J'en représente la justice. Et je décrète que tout homme surpris à rencontrer un Indien sans l'abattre sur le champ sera jugé pour trahison et pendu !
La journée s'écoula, tandis que les deux camps se préparaient à la guerre. Mais à la nuit tombée, Pocahontas et Smith s'éclipsèrent pour se retrouver à la clairière.
Nous pouvons peut-être encore sauver la paix. Tu vas m'accompagner et parler à mon père.
Alors que Smith protestait, expliquant que les deux parties voulaient vraiment se battre, Grand-Mère Feuillage l'interrompit.
Regardez.
Et elle trempa une de ses branches dans la rivière. Pocahontas chuchota.
Je ne comprends pas.
Grand-Mère Feuillage sourit.
De simples ronds dans l'eau. Et voyez comme ils se propagent. Mais il faut savoir faire le premier pas.
Smith regarda Pocahontas.
Allons voir ton père.
Heureuse, elle le serra dans ses bras. Tandis que John et Pocahontas s'embrassaient, Thomas, à qui Ratcliffe avait ordonné de suivre le capitaine, les épiait, cachés derrière un buisson. Une seconde plus tard, Kokuom fit irruption dans la clairière et sépara les deux jeunes gens. Le guerrier sortit un couteau. Mais avant qu'il n'ait pu blesser Smith, Thomas tira et atteignit Kokwom en pleine poitrine.
Vous avez tué Kokwom.
Pocahontas se rua vers le colon. Smith l'arrêta.
Il voulait seulement...
Il a tué un des miens.
À ce moment, retentit le cri strident des autres guerriers. Smith se tourna vers Thomas.
Thomas, retourne au campement.
Alors que Thomas disparaissait dans la forêt, les Indiens envahissaient la clairière et capturaient Smith. Abasourdi, Pocahontas les regarda s'éloigner avec le corps de Kokwom et l'homme qu'il croyait être son meurtrier. Pocahontas s'agenouilla au bord de la rivière et pleura. Quand Pocahontas retourna au village, elle fut horrifiée d'apprendre que le chef Powhatan avait ordonné que Smith fût exécuté à l'eau. La nuit venue, avec l'aide de Nakoma, évitant les gardes, elle se glissa dans la hutte et se jeta dans les bras de l'Anglais.
Il aurait mieux valu qu'on ne se rencontre pas, tout ça ne serait pas arrivé.
Pocahontas, regarde-moi. Plutôt mourir demain que vivre un siècle sans t'avoir connu.
Pendant ce temps, le gouverneur Radcliffe exhortait les colons.
J'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas faire confiance à ces barbares. Smith voulait s'en faire des amis, et voyez le résultat. Je pense qu'il est grand temps de secourir notre courageux camarade. Au petit matin, on attaque.
Powhatan lui aussi préparait ses hommes à la guerre, leur rappelant qu'ils n'avaient pas le choix. Il fallait combattre ces envahisseurs, qui n'étaient rien d'autre que de cupides sauvages sanguinaires. Avant qu'on ne la surprenne dans la hutte du prisonnier, Pocahontas embrassa John et se rendit tristement à la clairière. Pour la consoler, Meiko lui donna la boussole de l'Anglais. Alors qu'elle la regardait attentivement, l'aiguille se mit à pivoter.
La flèche qui tourne.
Grand-mère Feuillage lança.
Tu sais quel est le droit chemin, alors cours-y vite.
Comme le soleil se levait, Pocahontas suivit la flèche jusqu'à un plateau. Là, elle vit son père brandir une massue au-dessus de la tête de Smith. Elle s'interposa pour protéger le prisonnier.
Si tu veux tuer cet homme, tu devras me tuer d'abord. C'est l'homme que j'ai choisi. Regarde-les tous. Voilà où conduit le chemin de la haine et de la violence.
Powhatan suivit le regard de sa fille. Il vit les colons à l'orée de la forêt prêts à tirer et ses propres hommes, bandant leurs arcs, en position pour la riposte. Il savait qu'il devait prendre une décision.
Ma fille fait preuve d'une sagesse surprenante pour son âge. Libérez-le.
Les guerriers baissèrent leurs armes. Dérogeant aux ordres de Radcliffe, les colons firent de même, impressionnés par la bonne volonté de Powhatan. Fou de rage, Radcliffe tira sur le chef indien. Alors, Smith se jeta sur Powhatan pour le protéger. Mais c'est lui qui reçut la balle. Aussitôt, les colons s'emparèrent du cupide gouverneur et le mirent au fer. Le lendemain matin, Smith, allongé sur une civière, s'apprêtait à regagner l'Angleterre pour soigner sa blessure. Mais juste avant le départ du navire, Pocahontas, son père et ses amis arrivèrent. Smith demanda à Pocahontas de partir avec lui. Mais la petite indienne savait qu'elle devait rester avec les siens pour préserver la paix. Elle embrassa tendrement le beau capitaine.
« Tu me reverras. Quoi qu'il puisse arriver, je serai une flamme dans ton cœur. Pour toujours. »
Puis, ils se séparèrent, avec l'espoir qu'un jour, peut-être, leurs chemins se croiseraient de nouveau. Thank you.